BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et bonjour à toutes et à tous. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web. Tout pour investir commence pour 2 heures d'émission, de conseils en placement, en actifs. Scruter un petit peu l'actualité qui fait bouger les marchés ces derniers jours. Entre marché et puis aussi actualité dans le domaine de la high-tech. On sera tout à l'heure en direct avec Stéphane Van Uffel de Net Investissement qui sera avec nous de la bourse, hein, bien sûr, étant donné que les marchés sont ouverts aujourd'hui. La bourse, on la suivra avec Sabrina Dalgui ce matin. Elle est en plateau avec nous. On va parler foot, tiens, aujourd'hui, hein, les clubs de foot cotés en bourse. Le match des traders, bien sûr. À 10h30, vous retrouverez votre dose d'économie. Comme tous les jours avec Nicolas Dose, on va parler de Taylor Swift. Hein. Vous vous souvenez, on glose beaucoup, hein, un petit peu partout sur l'impact économique de Taylor Swift, mais enfin il y a quand même quelques chiffres spectaculaires à la clé, hein, juste avant son concert monstre à la Défense Arena. De l'immobilier, bien sûr, en deuxième heure, hein, on sera avec Marie Cœur de Roy, bien sûr, notre experte maison, et puis bien sûr vous qui nous écoutez, qui nous regardez, auditeurs, téléspectateurs, vous avez la parole tout au long de l'émission. Alors vous pouvez nous joindre par email direct@bfmbusiness.fr sur le compte de Lorraine Goumeau, hein, sur LinkedIn, hein, qui est joignable directement en message privé. Hein, on répond à toutes vos questions en fin d'émission, bien sûr. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS au 732-16 ou taper le mot-clé business juste avant votre message. Allez, on jette un coup d'œil sur les marchés pour commencer cette émission. Les marchés avec Sabrina Dalgui, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors comment ça se passe ce matin? Un petit début de séance, hein, sans plus pour un CAC 40. Bon, on est toujours au-dessus des 8100.
Oui, on est toujours au-dessus des 8100 points. Petite séance assez indécise, hein, -0,10% à 8123,07 sur le CAC 40. À noter du côté des hausses, hein, on a Renault qui gagne 1,67% à 48,67 €. Le secteur auto aussi plutôt bien orienté après sa chute de la veille, hein, avec Stellantis qui gagne 0,60% à 19,93 €. À noter la hausse de Total Energy qui gagne 0,83% à 67,79 € avec le rebond des cours pétroliers. Par contre, Sanofi, en valeur défensive par excellence, perd quasiment 1% à 92,17 €. Le luxe aussi un peu sous pression. Hein. On a Hermès qui perd 1%, LVMH 0,79% et Kering 0,68%. L'indice parisien donc est en légère baisse, hein, tendance assez indécise sur le CAC qui perd 0,10% à 8123 points avant deux rendez-vous macroéconomiques. La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre prévue en début d'après-midi et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis prévues à 14h30. 214 000 inscriptions attendues par le consensus après 208 000 une semaine plus tôt.
Alors Sabrina, on va parler foot. Oui. Avec la victoire hier donc du Real Madrid sur le Bayern de Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors, on connaît désormais l'affiche de la finale, ce sera donc Dortmund-Real Madrid. Mais pourquoi on parle de foot, hein, dans Tout pour investir?
Eh oui, c'est la variété de Tout pour investir. Eh ben, on parle de foot, et Antoine, parce que Dortmund est coté en bourse. Alors, plus précisément, c'est sa maison mère qui est cotée à la bourse de Francfort. Exactement. Ouais. Sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions du Borussia Dortmund mardi soir aux dépens du PSG, un navré pour eux, a ravi ses supporters mais aussi ses actionnaires. Alors hier, le titre du Borussia Dortmund a gagné quasiment 6% après avoir touché un plus haut de 6 mois, et déjà il avait gagné 5% le lendemain de sa victoire au match aller contre le club parisien. C'était le 1er mai. Alors sur un mois, l'action gagne quasiment même plus de 20% avec son beau parcours dans les deux dernières phases de la compétition.
Oui, parce que sur le plan financier, la qualification c'est du lucratif en dur, hein, pour les clubs de foot.
Ah ouais, c'est hyper important parce qu'une qualification aux différentes phases de la compétition, ça fait des recettes pour le club. Je ne vais pas détailler toutes ces phases, hein, parce qu'on y sera encore. Mais pour les quarts de finale, hein, chaque club reçoit 10,6 millions, une dotation qui monte à 12,5 millions d'euros pour la demi-finale. Et pour la finale, est-ce que vous savez quel est le chiffre ?
Aucune idée.
Aucune idée. Pour la finale, le Borussia et son futur adversaire recevront 15,5 millions d'euros. 15,5, ouais. Et une victoire en finale, hein, eh ben, ça gonflerait de 4,5 millions d'euros supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle du club et du Borussia Dortmund, hein, puisque selon son dernier rapport annuel disponible, Borussia Dortmund avait généré des revenus de 44 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice 2021-2022.
Alors, on le rappelle, hein, la bourse et le foot font bon ménage. Hein. Il y a plusieurs grands groupes européens qui sont cotés en bourse. Alors, la Juventus de Turin, l'Ajax d'Amsterdam. Investir dans un club de foot, c'est quand même réservé aux investisseurs avertis. C'est souvent des parcours assez chaotiques.
Et bien sûr, et clairement, aux supporters les plus mordus, hein, parce que les résultats d'un club de foot, qui sont par nature aléatoires, pèse donc grandement sur la santé économique et financière d'un club de foot. L'activité d'un club sur le marché des transferts ou l'état de santé d'un joueur clé peuvent aussi jouer. Alors, pour réduire cet aléa sportif, certains clubs cotés, par exemple au Danemark avec le FC Parken ou en Turquie, ont diversifié leurs revenus soit en possédant des clubs de vacances, des villages de vacances comme le Parken FC qui détient le FC Copenhague, ou des parcs immobiliers pour les clubs stambouliotes de Galatasaray, par exemple, pour ne citer qu'eux.
Ouais, pour les plus connus, et c'est vrai qu'il y a souvent cette tentation pour les clubs de foot de créer une véritable holding d'activité. On peut citer aussi OL Group
bien sûr, qui détient son propre stade.
Stade, sa franchise, ses business, etc., du divertissement et beaucoup d'actifs de qualité en plus du foot.
Tout à fait.
Où les revenus nécessairement sont
Par nature
aléatoires.
Voilà, c'est
et,
ça.
Tributaires des résultats sportifs. Merci beaucoup Sabrina.
Merci Antoine.
Pour ce focus. Et puis tout de suite, on rejoint Stéphane Van Uffel de Net Investissement, notre rédacteur en chef du jour.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Stéphane Van Uffel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Pas mal de sujets à la une. On va commencer par un sujet fiscalité avec vous. Le nouveau barème des tranches fiscales et les baisses d'impôts qui sont attendues. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ?
On était un peu obligé, période fiscale oblige, on est tous en week-end, il fait beau, d'essayer de parler de bonnes nouvelles.
Ah, j'y ai pensé en préparant l'interview, parce que il reste ma déclaration à faire, mais oui, effectivement, c'est un sujet d'actualité.
Exactement.
D'accord.
Non, mais alors, c'est une petite nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour de nombreux contribuables, qui verront leurs impôts réduire, en fait, cette année. Pourquoi ? Parce que pour s'adapter à la forte inflation, l'administration fiscale a augmenté les tranches des barèmes fiscaux des Français. Vous savez, en France, on est imposé de façon successive. Donc, en fait, ça va exclure certains Français des impôts et puis ça va plus globalement allonger ces tranches fiscales. Donc, finalement, des gens qui avaient des tranches plus élevées se retrouvent dans la tranche inférieure. J'avais juste noté deux chiffres. Il y a 2,6% de contribuables français, mon cher Antoine, qui ne vont plus être redevables à l'impôt cette année. Mais surtout, cette revalorisation touche quand même 4,8% des tranches fiscales en France, et donc elles vont avoir un impact pour tous les Français, y compris les plus aisés.
Ouais, effectivement, ça fait du grain à moudre.
C'est une bonne nouvelle, même si c'est face à l'inflation et que ça va être finalement, bon an, mal an, le résultat le même sur le panier de tous les Français, on aime bien quand même qu'il y ait des réactions dans ce sens-là, et puis vous savez ce que c'est, dès que c'est les impôts qui baissent, tout le monde est content.
Absolument. Donc fiscalité, on parlera aussi immobilier tout à l'heure avec vous. Et puis, gros sujet sur l'intelligence artificielle avec peut-être Amazon qui est en train de coiffer tout le monde au poteau. On y revient dans 5 minutes, mais pour l'instant, on va se consacrer à la bourse avec le match des traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Mathieu Sérone de Galiléo Trading qui est avec nous, bonjour. Et Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro, bonjour.
Bonjour.
Merci
Antoine.
Merci d'être avec nous. Une tendance toujours un petit peu indécise. C'est vrai que le marché est relativement creux jusqu'à la fin de la semaine avec jours fériés, ponts, etc. Mais c'est vrai que, on a quand même réussi à bien accrocher les 8100 points. Antoine Fraisse-Soulier, on va peut-être commencer avec vous. Qu'est-ce que vous anticipez pour peut-être la séance de demain, mais pour le début de semaine à venir ?
Alors, effectivement, on a un beau rebond depuis 5 séances. On reste sur 5 séances de hausse consécutive. Donc là, aujourd'hui, c'est normal que ça fasse pas grand-chose. Je crois qu'on est à -0.1, -0.2. Donc, on va consolider un petit peu aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a vraiment pas y avoir de prise de position marquée. On va rester, alors on a les bornes, c'est à peu près 8090, 8163. C'était le plus haut d'hier. Je pense pas qu'on aille au-delà de ces deux bornes. Maintenant, pour la fin de semaine, semaine, pardon, il n'y a pas grand-chose à anticiper. C'est plutôt début de semaine prochaine, puisqu'on va avoir les chiffres d'inflation aux États-Unis. Ouais. Ça va vraiment donner, à mon avis, le sens de la tendance, sachant qu'on revient finalement plus, très loin des plus hauts historiques sur le CAC 40.
On est c'est vrai qu'on a tendance 2%. À l'oublier, mais on est à combien de...
On est à 2%, à peu près, 2,5% des plus hauts historiques. Donc, on a vraiment marqué un très beau rebond. Ouais. D'ailleurs, sur les marchés américains aussi, hein, finalement, quand on regarde le Nasdaq, il est plus qu'à 1,5%. Et pour dépasser ces plus hauts historiques, il va falloir quand même avoir des catalyseurs. Si l'inflation aux États-Unis continue à augmenter, je pense qu'on pourrait quand même avoir de nouveau une phase de repli.
Oui, avec sans doute des taux qui vont augmenter, qui vont se tendre un petit peu. Et puis toujours cette divergence avec la zone euro, on en parle beaucoup. Mathieu Céron, vous avez quoi comme objectif là en ce moment à surveiller à court terme sur le CAC ?
Oh, ben, je pense comme tout le monde, hein, les plus hauts récents. Avec depuis quelques jours la magie d'une perspective de baisse des taux qui opère toujours. Hein. D'ailleurs, quand on regarde le consensus FedWatch de CME Group, qui table désormais à 67% sur une baisse de 25 points de base en septembre. On était autour des 54 la semaine dernière. D'ailleurs, concernant les taux, nous aurons la décision de la Banque d'Angleterre à 13h cet après-midi, donc ça peut être un petit catalyseur. La hausse aussi qui s'explique donc par la perspective de baisse des taux, mais également par les résultats d'entreprise hein, qui sont bons dans l'ensemble. 80% des sociétés du SP500 ont désormais publié avec des bénéfices qui pour beaucoup sont supérieurs à ce qui était attendu, des marges nettes aussi qui sont supérieures à ce qui était attendu, liées notamment à des programmes de réduction de coûts. C'est pas tellement des hausses de revenus, mais plutôt des programmes de réduction de coûts. Donc dans ce contexte-là, eh bien, on est toujours dans la phase le scénario que je travaille, à savoir tant qu'on est au-dessus de la zone des 7850, 7900 sur le CAC, eh bien, je considère que la tendance de fond est haussière. D'ailleurs, jeudi dernier, à cette même heure, j'indiquais sur votre antenne que j'avais acheté des options d'achat, des calls sur le CAC 40. J'avais même précisé le strike 8050 échéance mai qui valait 25 points. Bah, désormais, il vaut 4 fois ce prix-là. Donc, il y a des décisions de gestion à prendre en allégeant, en sortant, éventuellement en conservant un solde. Donc, on a une tendance de fond qui reste haussière et une évolution à court terme qui reste nerveuse au gré justement de déclarations de banquiers centraux, au gré de résultats d'entreprise, au gré de tensions également géopolitiques. Là, depuis quelques jours, eh bien oui, on a des marchés qui se reprennent, donc on a un biais aussi à court terme. Donc moi, ce que j'essaye de faire dans cette situation-là, eh bien, c'est d'acheter sur repli. Sur le CAC, donc là, je vais parler du futur, échéance mai, il y a environ 10 points d'écart avec l'indice. On a un niveau support sur les 8110 points. Donc 8110, c'est le niveau proche d'achat possible pour viser un retour dans la zone des 8145-50. Et sinon, juste un petit cran en dessous, il y a un support intéressant aussi à surveiller, c'est 8080-85. Donc je privilégie des achats sur des replis pour des écarts de 0,5-0,7%. Je m'attends pas à grand-chose non plus en termes de volatilité d'ici la fin de semaine. Et juste pour finir, les volumes, évidemment, qui sont très faibles, mais là, on est à 170 millions sur le CAC à 10h20. Normalement, à cette heure-ci, dans une séance, on va dire normale, on est plutôt autour des 500-600 millions avec les valeurs du luxe qui plombent un petit peu. Et Sanofi aussi, donc ce qui crée une sous-performance du CAC par rapport aux autres indices et notamment le DAX.
Merci beaucoup messieurs, Mathieu Céron de Galileo Trading, Antoine Fraissoulier d'Itoro. On vous retrouve tout à l'heure à 10h37 hein, pour parler d'idées d'investissement en portefeuille. Hein, ce sera avec vous, on parlera de quelques actions que vont surveiller. Allez tout de suite, tout pour votre argent, hein, tous les sujets marché du moment, on retrouve Stéphane Van Uffel.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Stéphane Van Uffel de Net Investissement. Ben, on poursuit avec vous. C'est vrai qu'on parlait fiscalité. On va parler d'un autre sujet qui intéresse diablement nos auditeurs. Évidemment, c'est l'immobilier. On y reviendra en deuxième heure avec Marie Cœur de Roy et son invité. Mais alors, l'actualité, vraiment, vous, qui vous intéresse, c'est cette injection par l'État de 650 millions d'euros dans le secteur du grand âge. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne nouvelle pour les investisseurs ?
Pour les investisseurs, ceux qui l'ont déjà fait, et puis pour les investisseurs qui se poseraient la question, parce que il y a une crise sans précédent hein, qui touche les établissements de personnes âgées et dépendantes, mon cher Antoine, ou plus globalement le secteur des personnes âgées. Donc le gouvernement a récemment débloqué cette aide significative. Cet argent sera injecté en gros, pour améliorer d'abord la condition de vie des patients, mais également les conditions de travail, les environnements immobiliers. C'est surtout le personnel qui a attiré l'attention des pouvoirs publics à 13 associations publiques, associatives et privées qui avaient, excusez-moi du terme, tiré sur la sonnette d'alarme. Et donc, le gouvernement a accepté d'augmenter déjà des financements existants importants, 5% pour le secteur public, 5% pour le secteur associatif et 3% pour le secteur privé. Donc, ce sont quand même des aides importantes. Il faut quand même savoir que l'année dernière, déjà 100 millions d'euros supplémentaires au budget avaient été injectés dans les établissements publics parce que 85% des EHPAD gérés par l'État sont aujourd'hui profondément déficitaires. Donc, on s'en réjouit parce que ça s'inscrit dans une grande remise à plat d'un secteur qui est quand même important. C'est là où on traite finalement la mémoire des Français. Et puis, on avait eu en plus des annonces très, très moyennement éthiques lorsque certains journalistes avaient pénétré des EHPAD privés, cette fois-ci, en région parisienne ou ailleurs. Donc, on était tous un peu gênés par tout ça. Donc, cette remise à plat, elle rend finalement le sujet très attractif pour un investisseur, parce qu'on le voit donc, le besoin en résidence privée, il est très fort en France. Le besoin de financement privé pour ces résidences est très fort en France. Donc, ça va évidemment offrir des opportunités, à condition donc de bien choisir ces opportunités pour éviter les écueils qu'on a vus à la télévision. Donc je me suis dit, c'est un sujet qui est important parce qu'on n'en parle jamais assez. Faites des mères, faites des pères, faites des grands-mères qui arrivent bientôt. Et c'est quand même le cœur de l'investissement, c'est donner du sens à son investissement. Et il n'y a pas que l'ISR, il n'y a pas que l'ESG, il n'y a pas que la finance verte. Finalement, dans le développement durable, il y a aussi la vie des gens et comment on gère finalement la vie de nos grands-parents et d'ailleurs de nos petits-enfants, parce que petits-enfants, c'est la même chose. Donc, je pensais que c'était un bon sujet et je crois que c'est une enveloppe qui est de mémoire record en Europe, mon cher Antoine.
À retenir, effectivement. Est-ce que, à votre avis, alors, sujet un petit peu annexe, ça peut changer les trajectoires boursières, passablement compliquées, des Orpea, des Clariane, etc.
Oui, vous avez raison d'ailleurs de poser la question, parce que dans mon raisonnement en priorité, je pensais à l'investisseur très concret qui investirait directement dans ces résidences-là, en achetant par exemple une chambre meublée. Maintenant, à Orpea, Antoine, on va se le dire, ça va être très très compliqué quand même, parce que d'abord l'action a été tellement malmenée, et surtout la structuration financière du groupe aujourd'hui va être extrêmement surveillée pour que même la spéculation de marché, donc indépendante de la direction d'Orpea, ou en tout cas pas tout à fait dépendante d'Orpea, sera, pardonnez-moi le terme, sous l'œil de Sauron, ça va vous parler.
Oui, tout à fait.
Parce que on a vu qu'il y avait quand même les chambres Orpea étaient de loin pas toutes, 80% des gens chez Orpea font bien leur travail, mais il y avait beaucoup de chambres qui étaient mal gérées, et surtout l'information financière était très très limitée, donc on était au bord d'avoir quand même des cours un peu, tirés par les ficelles, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il va falloir suivre ça, évidemment, mais peut-être un signal encourageant à ce niveau-là. On va terminer avec un gros sujet, évidemment, la tech, la big tech, l'intelligence artificielle. Amazon qui accélère sur le sujet pour éviter d'être distancé. Vrai sujet pour les investisseurs, tant pour leur placement que pour la gestion de ceux-ci, selon vous. Quels sont vos axes de réflexion à ce niveau-là ?
Alors, c'est évident. D'abord, ça fait plusieurs années que dans beaucoup de secteurs, mais évidemment dans le conseil financier, on soulève souvent le capot des actions, des entreprises, des groupes d'actions qui se trouvent dans les portefeuilles de nos clients, qu'ils soient assurance vie, PEA, etc. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un terme qu'on aborde depuis des années de façon plus ou moins importante, avec aujourd'hui finalement une ultra courbangie, d'abord parce que évidemment le monde entier s'y est intéressé, et puis ensuite parce que là on a vu des résultats et des performances en bourse, suivez mon regard vers les États-Unis, qui ont été absolument lunaires. Ce qui m'a intéressé dans ces différents papiers que j'ai lus sur le sujet, c'est que ce qui est magnifique avec ces très grandes entreprises, ces très grandes majors américaines, et là on parle d'Amazon, c'est leur capacité à s'adapter, alors qu'à un moment donné, elles avaient quasiment un monopole, et puis elles se font rattraper sur un secteur qui vient quand même grappiller des parts de marché qui n'étaient pas forcément les leurs, mais qui sont extrêmement importantes pour leurs avenirs. Donc, elles ont toujours tendance à ce moment-là à être très pragmatiques. Et là, Amazon, à travers AWS Service, donc Amazon Web Service, qui est donc le gros de la marge d'Amazon, est fait sur, je le résume pour les gens qui nous écoutent, les services cloud. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est pas, c'est ni par la livraison de courrier, ni par la livraison de nourriture. Donc, il faut le savoir. Donc, forcément, cette entité d'Amazon, elle a en ligne de mire, et en plus, elle a un problème avec Microsoft, donc il se tire vraiment la bourre depuis des années. La Microsoft a pris, par des partenariats très stratégiques, énormément d'avance sur l'intelligence artificielle et sur toutes les intelligences artificielles que là, Amazon a annoncé, équiper à peu près tous ses services potentiellement vendables à nous autres, aux entreprises demain, d'intelligence artificielle. Mmh. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, un, on sait que dès que des majors, dès que des grandes entreprises, dès que des grands constructeurs automobiles, avioniques, mettent le mot intelligence artificielle sur la table, tout leur microcosme technologique qui, de près ou de loin, utilise ou produisent des services ou de l'énergie pour l'intelligence artificielle vont être tirés vers le haut. Donc, pour tous les investisseurs financiers purs, boursiers, actions, comptes titres, PEA, etc., il faut aller, il faut retourner et il faut se donner du temps, mais il faut retourner sur tous les fonds AI, IA, etc. Attention, vous regardez ce que vous faites quand même et vous ne mettez pas tout dans les mêmes paniers. Mmh. Et surtout, c'est hyper intéressant derrière aussi pour les gens qui pourraient être directement investisseurs dans des filiales ou des petites structures. Je pense à des middle cap ou des small caps, c'est des petites entreprises qui aujourd'hui deviendraient clientes de ces grandes boîtes et où là, vous n'avez pas forcément un marché coté, mais en capital risque, il y a des super coups à faire parce que l'innovation, elle est là. Mon cher Antoine, c'est pas là où je vais le dire, même si vous êtes souvent sur les marchés cotés, mais c'est un microcosme qui est énorme et sur les 10, 15, 20, 30 ans, il y a énormément de choses à faire pour les investisseurs français. En tout cas, nous, chez Net Investissement, on a des vraies convictions. C'est pas parce qu'il y a IA quelque part qu'il faut foncer. Mais en revanche, on sait, pour le voir, que même dans l'utilisation des outils de votre conseiller en gestion de patrimoine que je suis, l'intelligence artificielle est en train de tout révolutionner. La détenue de la data, la sécurisation de votre data et également tous les outils. Regardez comment on se parle aujourd'hui en FaceTime. Demain, tous les outils de traduction de mes chiffres pour me faire, à moi professionnel, gagner du temps. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent en intelligence artificielle. Donc, vous êtes investisseur, tant pour votre gestion au quotidien que finalement pour préparer votre retraite, placer de l'argent, donner à vos enfants. Utiliser l'intelligence artificielle.
Et au milieu de tout ça, vous parliez de soulever le capot pour regarder ce qui se passe. C'est vrai que ce soit Amazon, que ce soit n'importe quelle entreprise industrielle qui va se mettre à l'IA, que ce soit n'importe quelle major de la high-tech américaine qui drive le marché là-dessus. Si on soulève le capot, on voit quoi? On voit marqué GeForce RTX. Donc, en gros, est-ce que une bonne manière d'investir dans l'intelligence artificielle, c'est pas aussi de s'exposer à Nvidia?
C'est une question. Je vais vous tourner la question à l'envers, Antoine. Un de mes confrères était venu sur le plateau du bullshitomètre de notre ami Guillaume Sommerer. Il s'inquiétait beaucoup de Nvidia. Il s'inquiétait beaucoup de Nvidia parce que dans le portefeuille de clients Nvidia, il y a un très gros client. Et en fait, ma réponse était la suivante, c'était de regarder aujourd'hui dans les projets, les budgets de la grande majorité des entreprises où il n'y a pas Nvidia. Je ne crois pas, en tout cas, je suis peut-être un peu naïf, mais je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter d'un monopole quelconque parce que, justement, moi, j'ai un de mes collaborateurs qui fait un master sur l'IA et qui est en train de m'expliquer que les versions d'IA dont on parle aujourd'hui comme étant celles de demain sont déjà dans sa vision à lui. Dépassé par alors on serait sur ChatGPT 6 ou 7, vous voyez. Et donc, en fait, il est évident qu'ils auront des concurrents. Il est évident que personne ne remportera le marché. Il est évident, selon ma conviction à moi, que les 7 Magnificent continueront à se partager le gâteau parce qu'elles sont devenues tellement énormes. Mais au final, il faut pas imaginer que c'est Nvidia qui fait tout et que Nvidia travaille seul. Nvidia, c'est un microcosme depuis 94. C'est une entreprise qui a 30 ans. Donc je suis, je comprends votre question, mais je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter. Il faut voir justement ce monde de l'intelligence artificielle et de l'ultra calcul de l'information comme un monde qui va justement changer, y compris nos data humaines de pensée. Donc moi je suis hyper rassuré et surtout Je peux vous dire que en termes de gestion de l'exactitude des données financières, mathématiques, pour bien préparer des dossiers, bien accompagner des clients et éviter de leur faire faire des bêtises, pour nous, c'est extrêmement confortable. Donc, j'imagine l'ensemble des secteurs de la planète. Enfin, nous ne sommes qu'au grand soir.
Et il va falloir regarder ça dans les mois, dans les années à venir. On a toujours beaucoup d'arbitrage autour de ces perspectives, mais
évidemment,
l'impression qu'on a quand même un boulevard de croissance et de transformation à jouer. Merci beaucoup Stéphane Van Uffel, cofondateur de Net Investissement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée à vous aussi. Et après une petite pub, on retrouve Nicolas Dose pour votre dose d'économie. Ben, on va parler de Taylor Swift, tiens.
Tout pour investir, dose d'économie.
La dose d'économie.
Vous n'embêtez pas de ça.
Non, mais ce sera comme ça à chaque fois. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Pas de souci. Nicolas Dose, nous allons parler rockabilly, musique moderne, gigodou.
J'aurais jamais pensé en fait. Non, mais c'est parce que bon, l'actualité économique est un peu creuse. J'ai regardé Taylor Swift.
Mais oui, mais
c'est... en fait,
comme vous avez un numéro de carte de presse à trois chiffres, comme moi, ben, c'est normal que ça étonne les téléspectateurs qu'on s'y intéresse. Mais oui, ce soir à la Défense Arena, Taylor Swift, il y a quand même le monde entier qui nous regarde. Et au-delà de la musique, ben oui, c'est un événement économique. Alors, et c'est des chiffres clés absolument spectaculaires.
Je pensais vraiment pas parler de Taylor Swift, parce que objectivement, c'est vrai que j'y passe pas mes journées. D'ailleurs, j'ai un auditeur qui m'a écrit ce matin en me disant « Oh, je pensais pas que vous feriez un jour une chronique sur Taylor Swift. »
Bah oui, mais alors, moi pareil.
Mais du coup, j'ai regardé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas une actualité économique débordante aujourd'hui. Faut reconnaître que c'est hyper impressionnant.
Ah oui.
Quand on regarde les chiffres de Taylor Swift, waouh! Non, parce qu'elle est célébrissime aux États-Unis, chanteuse de country depuis plus de 10 ans. Pour la génération un peu plus âgée, c'est pas le nom qui vient naturellement en tête chez tout le monde, objectivement. On a fait un petit test dans la rédac. Qui connaît un titre de Taylor Swift? Ceux qui connaissent un titre en connaissent un. De nom, hein.
Et on leur demande... Moi y compris.
Voilà.
Encore sa date.
Eh ben, c'est celui-là qui est mis en avant. En tout cas, 2 milliards de dollars, c'est ce que devrait rapporter l'ensemble de la tournée qu'elle a entamée, là. Il y a 20 pays, il y a 151 dates. 200, c'est le nombre de millions d'albums qu'elle a vendus dans le monde. 300 millions d'écoutes en une seule journée pour son dernier album. 100 millions de fans par mois sur Spotify. 283 millions d'abonnés sur Instagram. Alors, après, la fortune, elle est estimée par Forbes. Un peu plus d'un milliard de fortune personnelle. Mm-hmm. Elle est l'artiste la plus écoutée de tous les temps.
C'est dingue.
Voilà. Son dernier album a atteint 228 millions de téléchargements en 24 heures. 46 000 exemplaires de son dernier album vendu en France en une semaine. Il faut reconnaître que c'est hyper impressionnant comme chiffre, parmi les chiffres clés qu'on peut citer sur cet artiste.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles, d'analyses, un petit peu de bullshit, on va dire, ces dernières semaines sur... l'effet économique Taylor Swift, j'avais lu quelque chose comme quoi ça avait eu un impact concret de quelques points de base de PIB d'un pays nordique. Alors, où il y avait eu un véritable
Il y a un effet économique. La Fed a reconnu qu'il y avait un effet notamment sur la consommation aux États-Unis, par exemple. Il y a un effet économique. Oui, c'est vrai que ça rappelle un truc extraordinaire. Bon, c'est pas un immense pays, la Suède, mais Beyoncé, il y a exactement un an, était en Suède. Ben, la présence de Beyoncé en Suède a fait que, au mois de mai 2023, l'inflation est partie à la hausse. Parce que, il y avait une inflation à tous les niveaux et notamment pour les chambres d'hôtel. Donc oui, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un effet macro-écho sur un pays. Et la Fed a observé qu'il y avait eu des effets macro-écho sur la consommation dans certains États à l'occasion de prestations de Taylor Swift. Alors, le phénomène se produit aussi chez nous. À Lyon, elle sera les 2 et 3 juin. On a une hausse sur ces dates-là. Hein. 2 et 3 juin, pour les 2 et 3 juin d'il y a un an, vous avez plus 220% de réservations hôtelières, par exemple. Quand même, qui est absolument fascinant. C'est pareil sur Airbnb. Alors, l'Eras Tour, puisque c'est le nom de sa tournée, démarre en Europe. C'est la première date sur scène depuis la sortie de son 11e album. Son dernier concert en France, c'était au Zénith de Paris. Vous voyez qu'on a changé de dimension, clairement.
Division.
Et alors, elle a fait exploser complètement Ticketmaster, qui est la grande plateforme de réservation internationale de billets de concert. Parce que pour chaque date, il y avait à peu près 1 million de personnes qui faisaient la queue. sur Ticketmaster. Donc on est vraiment sur des chiffres inimaginables. Et alors ce qui est assez frappant, c'est que on a souvent tendance à regarder les artistes et à dire qu'il y a un business model derrière. C'est pas le business model habituel. C'est-à-dire que par exemple chez Taylor Swift, vous avez pas la marque de cosmétiques, la marque de fringues, les parfums. Non, il y a pas de tout ça. Et en fait, c'est la seule aujourd'hui, la première chanteuse milliardaire uniquement grâce à la musique. Aussi, elle a décidé qu'elle allait rompre avec Spotify parce qu'elle dit Spotify ne paye pas assez. Au moins, c'est clair et net. Et elle est allée jusqu'à réenregistrer une partie de son répertoire pour avoir des versions différentes parce que les versions initiales avaient été acquises par des investisseurs et donc pour reprendre totalement les droits. Donc, c'est un vrai, vrai business model assez atypique. Puis, il y a un dernier chiffre qui m'a amusé, c'est que elle va arriver donc à Paris. Là, elle est à Paris pour sa tournée. D'ailleurs, Taylor Swift, vous avez 80 camions qui roulent.
80.
Voilà. Non, bon, c'est. Je pensais pas que je parlerais de ça. Finalement, il y a un vrai phénomène économique.
Nicolas, est-ce que vous. On en avait parlé, je crois,
de quoi
dans Radin 15 jours. Est-ce que vous vous souvenez quel a été l'homme le plus riche de tous les temps?
Qui a été l'homme le plus riche de tous les temps? Je sais pas. Warren Buffett
Non, faut remonter.
Non, mais d'ailleurs, Warren Buffett, non.
Il s'appelait Mansa Moussa Keïta. C'était l'empereur du Mali, qui à l'époque était la puissance économique la plus colossale qui soit. Il était propriétaire en tant qu'empereur de tout l'or du pays. Et Bloomberg avait fait une étude, pendant plusieurs années avec des économistes et tout, des historiens, et avait déterminé que ce monsieur avait une fortune personnelle, donc, de 400 milliards de dollars actuels. Il était musulman, il faisait le pèlerinage à la Mecque, il se déplaçait donc avec des milliers et des milliers de chameaux, il finançait des choses à chaque fois qu'il passait, qu'il faisait étape dans des villes, etc. Écoutez bien, l'or perdait de sa valeur partout où il passait tellement il en avait sur lui. C'est un truc de fou. Il provoquait des dévaluations tellement il avait d'accord. d'or sur lui. Taylor Swift, c'est un peu, Mansa Moussa, moderne et artistique.
C'est vrai qu'un artiste qui tire le taux d'inflation d'un pays tout entier, c'est pas mal.
C'est fou, ça.
C'est quand même pas mal.
C'est quand même fou. Bon. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de parler de Taylor Swift ce matin. Et puis tout de suite, quelques conseils en portefeuille. On va retrouver Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro.
Tout pour investir, les marchés et vous.
On sort de Taylor Swift, on va revenir aux bonnes vieilles valeurs sonnantes et trébuchantes. Antoine Fraisse-Soulier, merci d'être resté avec nous, hein, Ditoro. Saint-Gobain, tiens. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on voit les valeurs liées aux matières premières qui reprennent des couleurs, que ce soit les ArcelorMittal, les... Saint-Gobain, ça c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que le groupe a connu un très beau parcours boursier. Il gagne quasiment 15% depuis la publication de ses derniers résultats.
Effectivement, le jour de la publication, le titre a gagné quasiment 7%. Et malgré le fait que le chiffre d'affaires a été en recul au premier trimestre, on a eu un chiffre d'affaires, mais c'était attendu par la communauté financière. On a eu un chiffre d'affaires en recul de quasiment 6%, mais c'était un peu supérieur aux attentes, dû au fait que la construction dans le neuf, avec des taux au plus haut depuis 20 ans, est en recul partout en Europe. On le voit, la construction de neuf recule. Ceci étant, c'est considéré, enfin, la tonalité du management lors de la déclaration des résultats était qu'on a touché le fond. Enfin, on est au plus bas de la construction dans le neuf et que maintenant, le meilleur est à venir. Notamment, il y a un besoin structurel de logement, bien sûr, ça, tout le monde le sait. Et donc, le point bas est au Royaume-Uni, en Allemagne. Et donc, ça devrait repartir. En France, peut-être, on n'a pas encore peut-être touché le fond, mais ça devrait repartir dans quelques trimestres. Et ensuite, il y a bien sûr la stratégie du groupe, finalement, qui porte ses fruits depuis 2018, en fait, où le groupe a cédé ses activités non rentables. C'est orienté vers des activités qui sont beaucoup plus rentables, comme la chimie de construction, par exemple. Mm-hmm. Maintenant, plus de 50% du chiffre d'affaires, c'est la rénovation. Tout ce qui est performance énergétique, décarbonation, donc aussi, ce sont des thèmes porteurs aujourd'hui. Et le titre, en plus, est sous-coté par rapport à la concurrence. On le voit avec un PER aux alentours des 12-13. Mais en bourse, effectivement, le titre a bien rebondi puisque on est revenu sur des niveaux de 2007.
Oui.
On est aux alentours des 79 ou 80 euros, me semble-t-il, sur le titre. Et voilà, et je pense qu'on pourrait Bien évidemment, c'est pas un conseil, mais on pourrait retrouver les plus hauts historiques qui sont à 86 euros, donc on n'est plus très loin, et les dépasser, pourquoi pas, dans un futur pas si lointain.
Alors, il y a un truc qui est intéressant, je sors un petit peu de Saint-Gobain, mais qui peut peut-être être intéressant pour l'auditeur aussi. On a vu en particulier Legrand. Après la publication de ces résultats, vont décevoir un peu parce qu'on sent que le groupe est toujours touché de plein fouet par son exposition au marché immobilier. Bon,
oui.
Là aussi, peut-être l'impression qu'on voit le bout du tunnel. Est-ce que vous pensez que cette exposition au marché immobilier, qui est peut-être en train de se retourner, pourrait être une dynamique de croissance pour d'autres valeurs du même type qui y sont exposées?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un côté cyclique, caractère cyclique hein, dans ce type de valeur. Le cycle est peut-être en train de se retourner, donc c'est vrai que ça pourrait en profiter pour ce type de valeur. On le voit aussi avec Schneider Electric qui pour le coup est vraiment bat tous les records en bourse. Legrand est un peu plus à la traîne. On a eu comme vous l'avez dit des publications qui étaient sous les attentes, donc ça a été sanctionné en bourse. C'est vrai que lorsqu'on est sous les attentes, on le voit, ça pardonne pas. Mais il y a eu des relevements de recommandations. Alors je me souviens plus si c'était Goldman Sachs ou Morgan Stanley qui avait recommander le titre avec un objectif aux alentours des 112 euros. On est sous les 100 aujourd'hui. Donc typiquement, c'est le type de valeur qui pourrait performer et surperformer l'indice parisien. Et c'est des valeurs qui, à mon sens, qui ont du potentiel sur du long terme. Ouais.
Bon. On va parler d'Accor aussi. Hein,
oui.
Accor qui légère baisse là ce matin. En 0,51, on est à 41,26. Mais on sent quand même que le vent tourne et que le groupe est en train de récolter les fruits du retournement du tourisme au niveau mondial. Là, ça commence à se voir. Bon, retour au sein du CAC 40, de l'élite boursière, ça recommence à être un secteur qui compte. Le cycle compliqué semble terminé là.
On peut dire que la page Covid est terminée. La page Covid est terminée parce que le tourisme mondial a repris de manière spectaculaire. Il manquerait plus que les Chinois qui sont encore en retrait quand même par rapport à avant Covid, mais aux États-Unis, les Américains, en Europe aussi, ça reprend de plus belle. Alors on le voit avec le chiffre d'affaires qui a progressé de 8% sur le trimestre. Le revenu par chambre aussi, hein, c'est l'indicateur clé. On voit qu'il progresse aussi de 7%. Et ça fait suite en fait à la stratégie finalement gagnante de Sébastien Bazin, qui est de séparer le modèle, on va dire. Alors premium, milieu de gamme économique et lifestyle luxe, qui elle est beaucoup plus rémunératrice, et on le voit, la croissance vraiment c'est le moteur d'Accor aujourd'hui, c'est tout le côté lifestyle, notamment les stations balnéaires en Turquie, Égypte, Moyen-Orient qui marche très très bien. Donc ça c'est plutôt positif pour le titre. Et ensuite il y a bien évidemment, bon, il va y avoir l'effet euro en Allemagne et Jeux Olympiques qui devraient quand même booster.
Taylor Swift dont on parle.
Et tous les c'est Taylor Swift, c'est une bonne transition.
Ouais.
Mais il y a cet événement donc au troisième trimestre, un deuxième troisième trimestre qui va booster la croissance d'Accor. On est aussi sur en valorisation, on est quand même aussi sous les standards américains comme Hilton ou Marriott qui sont plus à 25, 26 fois les bénéfices. Là, on est aux alentours des 18, 19.
Reste de la marge.
Alors certes, le titre a bien progressé depuis les points bas du Covid, hein, mais on est encore à une vingtaine de pourcents des plus hauts, qui se situent aux alentours des 50 euros. Comme vous l'avez dit, on est aux alentours des 41-42 euros. Donc, il y a encore de la marge pour Accor. Et je pense que le tourisme mondial n'a pas fini de progresser. Et je pense qu'Accor, c'est aussi une belle société qui n'est pas forcément très... Bon, ça, on n'en parle pas énormément, d'accord, finalement.
Oui,
beaucoup du luxe, où on parle beaucoup de... Mais cette valeur a du potentiel, je pense.
Et puis, il y a quelque chose dont vous parliez qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est, dans le très haut de gamme et dans le moyen de gamme, mais il n'y a pas de tentation chez Accor de filialiser, de scinder les activités. On a vu que ça pouvait être une très très mauvaise opération ces derniers temps, ce genre de... Non, ils gardent justement leurs activités liées pour profiter des cycles, d'une exposition plus positive au cycle, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est aussi une stratégie payante, hein, on le voit avec les résultats. Maintenant, après, il va y avoir peut-être un peu de croissance externe à réaliser, même ouais. si Accor est toujours le numéro un européen. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien ce mariage, on va dire, voilà.
Et puis on termine avec Amazon. Ben, on en parlait avec Stéphane Van Nuffel tout à l'heure. Excellent résultat. Et puis peut-être, c'est vrai qu'on a toujours, l'impression là que dans la high-tech américaine, ça se tire la bourre entre les Microsoft et Apple. Bon, Amazon est peut-être en train de coiffer tout le monde au poteau, quoi, finalement, avec l'ampleur dingue des investissements dans le data center, dans le stockage de données, etc.
Oui, tout à fait. Et quand on regarde, Amazon est numéro un en termes de volume de chiffre d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est exceptionnel. C'est 143 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre, hein, sur le premier trimestre. Et avec un bénéfice net qui a triplé, hein, qui est passé au-dessus des 10 milliards de bénéfices nets.
Plus rentable.
Donc vraiment, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, j'étais assez surpris que le titre ne progresse pas plus. Bon, il a progressé de 6%, hein. C'est quand même pas trop mal.
C'est quand même
correct, mais quand on voit qu'Apple a progressé 8-10% sur des chiffres qui n'étaient pas extraordinaires, on est au contact des plus hauts historiques sur Amazon. Clairement, on a dans tous les... Alors, AWS, qui est à peu près deux tiers du résultat opérationnel, qui a encore une croissance à deux chiffres, chiffre d'affaires, croissance à deux chiffres. On est... sur des activités de plus en plus rentables, même les livraisons, ça devient rentable, même si c'est plus du tout le cœur de métier finalement d'Amazon, hein. C'est vraiment le cloud et AWS, l'intelligence artificielle avec des investissements qui sont raisonnables quand même. Bon, toujours des proportions qui sont énormes. C'est 14 milliards de dollars d'investissement. Quand on compare à Meta, qui est plus dans les 36-38 milliards d'investissements, c'est ce qui a été sanctionné d'ailleurs pour Meta. On est sur des investissements qui sont raisonnables entre guillemets pour Amazon. Et effectivement, des chiffres qui sont toujours impressionnants. Et puis l'intelligence artificielle qui va aussi révolutionner toute la partie cloud, même si son moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle Bedrock est beaucoup moins connu que ChatGPT ou d'autres, mais qui pour l'expérience client notamment dans la partie achat en fait en ligne est énorme et fait gagner énormément d'argent à Amazon.
Oui, et d'autant que on voit que ces perspectives dans l'intelligence artificielle et notamment dans les outils qui sont mis à disposition des clients, le vent peut tourner mais très très vite et de manière tout à fait radicale. Donc Amazon a peut-être là la possibilité d'avoir des axes de croissance qui étaient moins vrais ces derniers temps.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils ont beaucoup d'axes de croissance possibles comparés peut-être à certains de leurs concurrents comme Apple par exemple qui est un peu plus en retard. Amazon, c'est pour moi celle des GAFAM qui a publié les meilleurs résultats. Et les perspectives aussi s'annoncent assez reluisantes. Donc, bon, après, des valorisations toujours qui sont quand même élevées.
Élevées,
ouais, ça reste les GAFAM, mais bon.
Et il y a de la qualité et il y a du. Effectivement.
Et donc, ça a d'ailleurs tiré d'ailleurs le Nasdaq, hein, qui est revenu sur quasiment ses plus hauts.
Ouais, tout à fait.
Qui a connu un beau trou d'air fin avril, mais qui revient. Toujours, j'ai envie de dire, grâce à ces big tech.
Complètement. Complètement. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est peut-être une opportunité à suivre de près, parce que sur un mois, Amazon ne fait rien. Dalle. Alors que sur un an, quand même, quasiment 70% de hausse.
70% de hausse.
C'est vrai que c'est très, très impressionnant. Merci beaucoup, Antoine Fraisse-Soulier, d'Itero. Merci d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle Saint-Gobain, Accor et Amazon, bien sûr, à suivre sur les marchés. Une petite pub et dans un instant, on retrouve le coach. Aujourd'hui, ce sera Benjamin Vatine, fondateur de SoWeFund. On va parler d'Impact Investing. Restez avec nous.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach ce matin, c'est Benjamin Wattine. Bonjour Benjamin.
Bonjour Lorraine.
Le fondateur de SoWeFund, on vous aide à investir votre argent au service des entreprises de l'économie réelle ce matin. Et on va s'arrêter avec vous sur l'impact investing, sur les secteurs à suivre en 2024, les secteurs les plus en vue et puis ceux où vous imaginez des opportunités avec votre paire de lunettes de SoWeFund. D'abord, on parlait de la défense juste avant que vous. Comment on peut résumer ce que c'est que l'impact ? pour les investisseurs particuliers?
L'impact investing, investissement à impact, l'idée c'est une intention claire pour l'investisseur, investir dans des sociétés qui vont avoir un impact positif sur l'environnement ou socialement. Donc l'objectif il est double, c'est d'une part d'avoir un rendement financier et d'autre part d'avoir un rendement extra-financier. L'enjeu pour tout le secteur, eh bien, c'est la mesure de l'impact. Comment on va éviter le greenwashing, et il va falloir beaucoup de transparence, on peut en parler.
Bon, on pourrait parler de comment l'impact est le grand oublié de la loi de finances, mais on va choisir un angle positif en soulignant un élément dans l'actualité de l'investissement à impact qu'il faut mettre en valeur. Un nouvel indice, ce n'est pas le CAC Impact 40, c'est l'Impact 40. Racontez-nous ce que ça va être, ça pourrait être.
Tout récemment, il y a en effet le mouvement Impact France, anciennement la Tech for Good, une association de professionnels et une association d'entreprises de la Tech for Good, qui a fait un peu le pendant du French Tech 120. Et l'idée, c'est de mettre en lumière les 40 entreprises les champions de l'impact et même les 120 entreprises championnes de l'impact aujourd'hui en France. Vous parliez juste avant du dispositif MIDI. Est-ce qu'on est les grands oubliés? Moi, je pense qu'en effet, on a quand même raté, d'une certaine manière, une opportunité d'accélérer le mouvement de l'impact investing. Pourquoi? Parce que, évidemment, et c'est encore à saluer, l'objectif du dispositif MIDI, c'est de flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle. Mais vers l'économie réelle et plus particulièrement les jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises innovantes de rupture, donc celles dans la deep tech, l'intelligence artificielle, qui revêt les critères de quoi ? De recherche et de développement. On n'a pas du tout pris en compte les critères de la mesure de l'impact comme le bas carbone, le bien-être au travail, un certain nombre d'éléments. Et donc c'est ça qui fait dire à un certain nombre de startups, à des milliers de startups ou d'entreprises qui, elles, sont vraiment avec un engagement fort sur ces objectifs de durabilité, eh bien dire qu'on a peut-être oublié, on les a peut-être oubliés un petit peu. Maintenant, j'ai envie de rester optimiste, vous l'avez dit. On va s'y atteler, l'ensemble de l'écosystème va s'y atteler, et on pense que c'est la prochaine étape.
Un indice, c'est mieux qu'un label ?
Un indice, c'est mieux qu'un label. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de labels. Et donc c'est
faites-nous la litanie des labels pour que personne ne comprend et ne croit.
Il y a vraiment celui que tout le monde connaît un petit peu, c'est l'ISR qui est l'investissement socialement responsable, qui va aujourd'hui avoir plus de 750 milliards d'encours en Europe. Bon, on sait pas toujours quand même ce qu'on a dans dans ses investissements. Ensuite, il y a le label Greenfin, qui est un label qui a été mis en place par l'État au lendemain de la COP21. Et l'idée, c'est pour favoriser la transition écologique. Il y a à peu près une vingtaine de milliards sous gestion aujourd'hui en France. Et puis, il y a le label FinanSol, par l'association FinanSol, qui est lui plus poussé vers les investissements inclusifs, sociaux et solidaires, qui est un très beau label, très très sérieux pour ceux qui veulent vraiment savoir où va son argent et dans le développement durable.
On dit que l'impact est un petit peu oublié de la dernière loi de finances. Il y a du progrès, des choses qui se sédimentent, une vision aussi qui évolue. Néanmoins, on est quand même dans un contexte géopolitique compliqué. Nous évoquions avant vous et régulièrement dans cette émission le secteur de la défense qui occupe une grosse partie de notre grosse cote, qui se porte bien. On a des géants, on a des Thales, des Airbus, des Safran. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces noms puissent être associés à impact? Et est-ce que le secteur de l'impact est forcément quelque chose d'à côté, toujours quelque chose qu'on va envisager dans une boîte à côté?
Vous le dites très bien, l'objectif de l'impact investing, c'est de drainer un maximum de financement vers les dossiers les plus responsables. Donc maintenant, quand on entend ces grands noms, ce qu'on peut espérer, c'est simplement qu'il y ait une prise en compte très très forte d'un certain nombre de critères, des critères environnementaux, des critères sociaux, de gouvernance. Et dans les grands noms que vous venez de citer, eh bien, on peut espérer. On prenait l'exemple de tout à l'heure. Je crois qu'il y a un drone marin de votre invité précédent.
Parler de la société Exail Technologies.
Eh bien, cette société, elle prend quand même. Il faut qu'elle prenne en compte. Et je pense que c'est vraiment le travail qu'elle prenne en compte. Eh bien, l'impact environnemental qu'elle peut avoir justement en lançant ces drones. Et donc, à partir du moment où on prend en compte dès le début, dès la création, je pense que au moins. Malgré le secteur qui est complexe et compliqué, on peut pas penser que c'est un secteur de développement durable. Il est quand même nécessaire pour notre défense ou pour la sécurité et le contrôle de nos eaux, eh bien justement, on peut imaginer que on puisse les voir un petit peu. Maintenant, quand on veut financer l'impact investing, quand on veut financer des sociétés vraiment durables, pas mal de personnes se retrouvaient à l'époque et encore aujourd'hui à vouloir financer des sociétés de type énergétique ou dans la santé, et puis se retrouver dans leur portefeuille avec des sociétés, des groupes d'assurance, de banques. Donc on peut toujours être un petit peu surpris. C'est pour ça qu'on veut toujours plus de transparence pour pouvoir promouvoir cette finance durable.
Votre métier, c'est d'aider les entreprises à se financer, à lever de l'argent chez ce WeFund. Est-ce que vous observez que le contexte macroéconomique, aussi géopolitique, freine les financements des entreprises? Et si oui, depuis combien de temps?
Alors ça fait deux ans, là, depuis 2022, avec le contexte géopolitique en effet. En tout cas dans le private equity, dans le non-coté, les fonds d'investissement arrêtent de financer aussi bien qu'avant et de manière aussi importante. Donc il y a une grosse baisse de l'investissement aujourd'hui en France. Mais heureusement, il y a des acteurs de la finance alternative, comme les plateformes de financement participative, eh bien, qui viennent en complément de ces, comme Sovifen, qui viennent en complément des investisseurs professionnels ou seuls, et qui viennent participer à ce financement des entreprises innovantes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, eh bien, on est dans une tendance avec quand même une note positive qui est, c'est fini la course à la croissance. Maintenant, c'est plutôt la course à la rentabilité. C'est beaucoup plus sain.
Dans les critères de l'investissement à impact, il y a beaucoup de choses. On parle de carbone, on parle d'égalité homme-femme, on parle de gouvernance, on parle aussi de viabilité des business models, avoir des entreprises qui vont être là dans 10, 30, 40, 100 ans si possible. Est-ce que vous pourriez nous dire, Benjamin, pour finir cette interview, quel rôle peuvent avoir les investisseurs particuliers pour changer, pour accélérer l'investissement dans le secteur impact, à part mettre des billes, évidemment, je veux dire. Qu'est-ce que l'investisseur particulier peut faire pour accélérer le mouvement?
C'est déjà d'avoir le déclic. L'investisseur veut savoir où va son argent. L'investisseur veut comprendre l'impact que vont avoir les entreprises dans lesquelles il investit. Donc, il y a soit l'investissement, mais si on va au-delà de l'investissement, c'est vous êtes consommateur. Donc, il faut éviter de consommer des produits qui ne sont pas des produits durables ou issus de sociétés durables. Aujourd'hui, on le voit sur une plateforme comme la nôtre, qui représente quand même plus de 130 000 membres, donc un bon panel de Français. 70% des projets qu'on leur met à destination sont des projets qui ont un impact positif sur l'environnement ou la société. Mmh. Des projets pour mettre des consignes auprès d'entreprises, des projets comme Anode pour avoir une petite batterie qui se développe pour la mobilité durable, pour le vélo de fonction avec Tandem. Voilà plein de sociétés qu'on a accompagnées, ou encore des distributeurs d'énergie verte comme Équateur, qu'on a accompagnées et qui sont des sociétés financées par les particuliers français qui veulent savoir où vont leur argent, mais surtout, qu'est-ce qui va en être fait. Et c'est plutôt souhaitable pour nous tous.
Les secteurs actifs de l'impact investing. J'espère que vous avez tout compris, bien retenu les leçons de cette petite intervention de Benjamin Batine, fondateur de SoWeFund, qui était avec nous. Donc l'investissement à impact. Restez avec nous pour la deuxième heure de Tout pour investir. On va parler bourse, on va parler foot aussi, vous allez voir. Et puis évidemment, une grande demi-heure d'immobilier. À tout de suite.
Pour investir sur BFM Business.